Louis Coquelet, l'éloge de quelque chose dédié à quelqu'un. Prudent et redouté lecteur, juge né de tous les auteurs, je viens en toute révérence captiver votre bienveillance. Vous me voyez tremblant d'effroi. De grâce, ayez pitié de moi. Or, écoutez, petits et grands, un des malheureux accidents qui soit arrivé au Parnasse. Je viens, dans une humble préface, vous le raconter tout du long, pour en mériter le pardon. Ce fut un soir de mercredi, dans le temps de Dom Bavardi, raconté maintes fades d'histoire à tous ceux qui venaient de boire, les uns plus ou moins de café, les autres plus ou moins de thé. Un auditeur, homme de bien, louant mon éloge de rien, me vint dire bas à l'oreille. « Votre ouvrage est une merveille. Ma foi, vous devriez bien ainsi exalter quelque chose aussi. » Hélas, dans ce piège flatteur, j'ai donné d'abord de bon cœur. Je reviens donc à ma chaumière, où, pour avoir de la lumière en entrant, je bats le briquet. En un moment, cela fut fait. Aussitôt, comme un écolier, je griffonne sur le papier ce qui me vient en vers ou prose. Dans la tête, sur quelque chose. Je ne me couchais pas enfin, que je n'en eusse vu la fin. J'aurais voulu, du moins, toujours lire et relire ce discours, lecteur, pour rendre mon ouvrage plus digne de votre suffrage. Mais un ami trop inhumain rompit ce louable dessein. Ce fut le lendemain, jeudi, environ l'heure de midi, que cet ami déraisonnable vit cet éloge sur ma table. Il le lit, le trouve charmant et me l'emporte sur le champ. Lors, contre mon intention, ayant eu la permission de le débiter et le vendre, j'eus beau dire pour m'en défendre, sans nul égard pour mon honneur, il le porta chez l'imprimeur. C'est donc par ce barbare tour que cet éloge a vu le jour. Si la pièce n'est pas correcte, savant lecteur que je respecte, vous savez la raison pourquoi. Ne vous en prenez pas à moi. Favorable Dieu des auteurs, Phébus et vous, ô docte sœur, détournez loin de quelque chose, très mordant et maligne glose, et faites-le vendre aussi bien qu'on a fait l'éloge de rien. Épître dédicatoire à quelqu'un. Bien des gens m'ont blâmé d'avoir dédié mon dernier ouvrage à personne, parce que cela ne m'a mené droit à rien. Et l'on m'a conseillé de dédier ce nouvel éloge à quelqu'un, parce que, dit-on, cela pourra me mener à quelque chose. Je me suis déterminée à suivre ce conseil, autant pour l'amour de quelque chose que je serais bien aise d'avoir que pour le mérite de quelqu'un, à qui on ne saurait refuser les justes louanges qui lui sont dues. Il faut en effet qu'on reconnaisse un grand mérite en quelqu'un, puisqu'il n'y a aucun peuple sur la terre, sans en excepter même les sauvages, qui ne rendent par préférence à quelqu'un toutes sortes de respect et de vénération. Et qu'en tout pays, chacun souhaite de contracter amitié avec quelqu'un à qui il puisse communiquer librement ses pensées et faire part de ses plus secrets sentiments. Les hommes les plus éclairés et élevés aux plus grandes dignités ont souvent recours à quelqu'un qui les aide dans leurs fonctions laborieuses. Un grand seigneur a besoin de quelqu'un qui le serve. Un valet a besoin de quelqu'un qui le nourrisse. Un courtisan a besoin de quelqu'un qui prône son mérite et ses services. Un jeune homme a besoin de quelqu'un qui le détermine à la vertu et à la sagesse par son exemple et ses douces remontrances. Un vieillard est charmé d'être avec quelqu'un qui écoute patiemment ses anciennes prouesses et ses comptes du temps passé. Une femme ne saurait se passer de quelqu'un qui la divertisse et l'amuse, quand ce ne serait qu'un perroquet ou un petit maître. nous sommes ravis, tous tant que nous sommes, de nous entendre louer de quelqu'un. Et tous les mouvements qu'on se donne à la cour et à la ville ne sont bien souvent que pour mériter les bonnes grâces et la protection de quelqu'un. Un riche financier n'étale tant de luxe et de magnificence que pour se faire admirer de quelqu'un. Une dame ne se farde et ne se pare que pour plaire à quelqu'un. Et un poète ne court lire ses ouvrages dans les cafés et dans toutes les maisons que pour mendier les éloges et les applaudissements de quelqu'un. Que deviendrait un grand seigneur s'il était sans quelqu'un qui le flatta et qui encensa jusqu'à ses plus grands défauts? Quel excès d'ennui et de mortification pour nos dames galantes si elles ne trouvaient de temps en temps quelqu'un pour les louer d'un mérite que le plus souvent elles n'ont pas. Quelle désolation pour un Gascon s'il ne trouvait souvent sous la main quelqu'un à qui compter ses faits imaginaires. Dans la prospérité, nous cherchons quelqu'un pour être le témoin ou le compagnon de nos plaisirs. Dans l'adversité, nous cherchons quelqu'un qui adoucisse nos peines en les partageant. Un solitaire est ravi d'être visité par quelqu'un qui, par sa conversation, charme l'ennui de sa solitude. Un voyageur est ravi de rencontrer dans sa route quelqu'un qui, par ses discours agréables, accourcisse son chemin. Et une fille nubile n'est pas fâchée de se voir vis-à-vis de quelqu'un qui s'offre de bonne grâce à lui faire changer son état de fille contre celui de femme. Combien d'hommes auraient-ils fini leur jour misérablement s'ils ne s'étaient trouvé quelqu'un qui, par sa valeur ou son adresse, ne les eût tirés du péril qui les menaçait? Combien de braves généraux auraient vu misérablement périr les armées qu'ils commandaient, quoique composées de vaillants hommes, si quelqu'un ne les eût avertis à propos des embûches que leur avaient tendues leurs ennemis et dans lesquelles ils étaient prêts de tomber? Les Séjean, les Concini et tant d'autres célèbres favoris auraient-ils une fin si tragique s'ils avaient trouvé quelqu'un véritablement dans leurs intérêts qui les eût déterminés de bonne heure à se dérober à leur funeste sort par une fuite salutaire? Dans tous les pays du monde, il se trouve toujours quelqu'un ennemi du vice et ami de la vertu. Un jeune seigneur qui, au lieu de se signaler comme il devrait, par des actions nobles et dignes de sa naissance, ne se distingue que par ses débauches et son libertinage, trouve toujours quelqu'un prêt à le mépriser souverainement. Une vieille enluminée qui, à l'âge de 60 ans passé, s'avise de vouloir minauder et faire encore l'agréable, tombe souvent entre les mains de quelqu'un qui la dupe et se moque d'elle. Quelque corrompus que soient les mœurs dans un état, on remarque toujours quelqu'un qui se sauve de la contagion du vice et s'attache inséparablement à la vertu. Quelque atteinte que des esprits remuants et dangereux s'efforcent de porter à la vérité, le ciel suscite toujours quelqu'un qui en entreprend la défense avec justice et en soutient les droits avec force. Quelque grande que soit la multitude des sots et des ridicules dans un pays, on y voit toujours quelqu'un qui se distingue par sa sagesse et par ses talents. Quelque affreuse que soit l'ignorance qui règne dans un royaume, il s'y trouve toujours quelqu'un qui cultive les belles lettres et favorise les savants. On voit donc par tant d'avantages que possède quelqu'un les justes raisons que j'ai eues de lui dédier mon éloge de quelque chose. Et moi qui, il n'y a pas longtemps, avais tous les sujets du monde de me dire serviteur de personne, je me vois sur le point d'être forcé, par le mérite et les bienfaits de quelqu'un, de changer de langage et de me dire bientôt, avec autant de reconnaissance que de respect, le très humble et très obéissant serviteur de quelqu'un. L'éloge de quelque chose. Si jamais éloge a été juste et bien fondé, c'est assurément l'éloge de quelque chose, puisqu'on ne saurait disconvenir que quelque chose ne soit excellent par lui-même et qu'il n'ait la plus illustre origine, puisque rien n'est mieux établi que l'estime universelle et le sincère amour qu'ont tous les hommes pour quelque chose, puisque dans quelque état et condition qu'on soit, on sent l'extrême besoin qu'on a de quelque chose, puisqu'enfin tout le monde demeure d'accord que quelque chose réunit en soi toutes les perfections imaginables. Pour commencer par l'origine de quelque chose, elle est sans contredit des plus illustres, car personne ne doute que quelque chose, autrefois, ne soit sorti immédiatement des mains de Dieu, et que quelque chose n'en sorte encore tous les jours. Qui ignore l'excellence de quelque chose? Quand on dit de quelqu'un que c'est un homme de quelque chose, on ne peut juger que favorablement de son extraction. Et quelque chose paraît si excellent à tout le monde qu'il n'y a personne sur la terre, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, grands ou petits, qui n'aiment et ne recherchent quelque chose. Les beautés les plus indifférentes, les esprits les plus misanthropes, aiment quelque chose, quand ce ne serait que leur caprice et leur fol entêtement. Tout le monde s'amuse de quelque chose. Chacun se plaît à quelque chose par préférence, et comme dans la plus grande prospérité, il nous arrive souvent quelque chose qui balance notre orgueil et nous fait sentir notre dépendance. De même, dans la plus cruelle adversité, quelque chose vient souvent, quand nous y pensons le moins, diminuer nos peines et ranimer notre espérance. Dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on médite, on a toujours en vue quelque chose. Et dans tous les temps, et dans tous les pays, quelque chose a toujours été le principal objet des soins, des désirs et des plus fameux projets des hommes. Qui ne fait rien pour rien, et on fait tout pour quelque chose. C'est en vue de quelque chose qu'un poète s'occupe avec tant d'ardeur à polir un vers et un orateur à compasser des périodes. L'homme de guerre, s'exposant à des périls continuels outre la gloire, envisage encore quelque chose. Le marchand court les terres et les mers à travers mille dangers pour gagner quelque chose. Et c'est pour amasser quelque chose qu'un artisan mène pendant 40 ou 50 ans dans sa boutique une vie si dure et si laborieuse. Un amant ne fait jouer tant de ressorts auprès de sa maîtresse que pour en obtenir quelque chose. Et c'est pour l'amour de quelque chose qu'une fille écoute les soupirs et souffre les assiduités d'un amant. Un courtisan ne se donne tant de mouvements et nous soutient tant de personnages différents que pour attraper quelque chose qui rapproche plus près de son prince et le mette au-dessus de ses concurrents. Et un habile ministre médite sans cesse quelque chose qui puisse être glorieux à son souverain et avantageux à ses concitoyens. Quelque riche que soit un homme, des biens de la nature et de la fortune, il souhaite toujours quelque chose. Les plus grands monarques élevés sur un trône, que l'éclat des grandeurs et l'abondance de toutes sortes de biens environnent, sentent souvent qu'il leur manque quelque chose. Et s'ils veulent parler de bonne foi, ils avoueront, sans doute, que plus d'une fois en leur vie, ils ont désiré quelque chose. Tant de grâce et d'agrément qu'est une femme, on trouve toujours qu'il lui manque quelque chose pour être parfaitement belle. Si profond et si savant que soit un homme, il y a toujours quelque chose qu'il ne sait pas et qu'il voudrait pourtant bien savoir. Et dans les plus fameux héros anciens et modernes, on a trouvé et on trouve encore aujourd'hui à redire quelque chose qui empêche qu'on ne les puisse dire souverainement parfaits. Il faut qu'il y ait dans quelque chose des charmes puissants et des avantages bien doux, puisqu'il est si désiré de tout le monde et qu'il perfectionne le mérite dans les sujets où il brille avec le plus d'éclat. Quelque chose par lui-même est si estimable qu'on ne fait qu'à aujourd'hui des gens qu'autant qu'ils ont quelque chose. On honore, on estime heureux, on ne trouve à même spirituel que ceux qui possèdent quelque chose. Auriez-vous toutes les vertus, toute la science imaginable, si vous n'avez quelque chose? On vous évitera, on vous fuira avec autant de soin que les personnes sages fuient de certains animaux qu'on nomme petits maîtres. Le principal mérite qu'on demande dans un homme qui cherche à se marier, c'est qu'il ait quelque chose. Et quand on dit d'une fille qu'on veut pourvoir qu'elle est belle, sage, de bonne famille, on ajoute, pour mettre le comble à ses perfections, mais le meilleur de tout, c'est qu'elle a quelque chose. Lorsqu'on veut dire du bien d'un jeune homme qui commence à entrer dans le monde, il fera quelque chose, dit-on. Et si on lui remarque quelque talent, on ne manque pas de dire aussitôt qu'on en fera quelque chose. Après qu'un marchand vous a fait un étalage brillant de ses marchandises, pour peu qu'il voie à votre mine que vous n'êtes pas content de ce qu'il vous a montré, « Attendez, vous dit-il d'un ton grave, je vais vous montrer quelque chose. » Mais ce quelque chose, ajoute-t-il d'un air enchéri, est du rare et du merveilleux. Un orateur veut-il réveiller l'attention de ses auditeurs qui bâillent ou qui s'endorment? « Écoutez, leur crie-t-il, écoutez quelque chose qui va surprendre votre admiration. » Un homme veut-il vous attirer chez lui? Il a, dit-il, quelque chose dont il veut vous faire part. Soupçonne-t-on quelque grand dessein? Il y a, dit-on, quelque chose en l'air. Toutes les passions des hommes sont remuées par quelque chose. Un avare travaille éternellement à ajouter quelque chose à ce qu'il a déjà. Un voluptueux cherche incessamment quelque chose qui le divertisse et l'amuse. Un gourmand n'est jamais plus charmé que quand on lui présente sur sa table quelque chose qui lui paraît friand et délicat et dont il n'a pas encore goûté. Il est rare qu'on se mette en colère pour rien, et c'est toujours pour quelque chose qu'on gronde et qu'on s'emporte. Personne ne s'avise d'être envieux de rien, et l'on ne porte d'ordinaire envie à son voisin que parce qu'il a quelque chose que nous sommes fâchés qu'il ait et que nous serions bien aise d'avoir à son préjudice. Un ambitieux ne se donne tant de peine que parce qu'il aspire à quelque chose qui flatte sa vanité. Mais si quelque chose donne le mouvement à toutes nos passions, comme on en saurait douter, quelque chose aussi nous excite à la vertu et aux grandes actions. Un homme sage fait toujours quelque chose pour éviter une dangereuse oisiveté. L'homme prudent s'occupe toujours de quelque chose dont il puisse tirer un avantage solide. Nous ne cherchons à nous distinguer par des actions d'éclat qu'afin qu'on dise quelque chose de nous dans le monde. L'homme de lettres n'étudie jour et nuit que pour savoir quelque chose. Le physicien s'applique à découvrir quelque chose dans la nature. Le mathématicien a inventé quelque chose qui fasse honneur à son génie et apporte du profit à la société dont il fait partie. L'homme libéral ne souhaite des trésors que pour être en état de donner quelque chose à ses amis et à ceux qui lui rendent service. Qui sont ceux qu'on aime et qu'on recherche le plus sur la terre? Ce sont ceux qui donnent quelque chose. Et une des plus belles phrases de notre langue est celle qui exprime le don actuel de quelque chose. Veut-on avancer ses affaires auprès d'une maîtresse? Non seulement il faut lui offrir quelque chose, mais il faut encore donner quelque chose à sa petite sœur, à sa cousine, à sa servante, même à son chien. Veut-on être prudemment conseillé par son avocat, promptement expédié par son procureur, méthodiquement traité par son médecin et artistement mutilés par son chirurgien, il faut commencer par leur donner quelque chose, ou du moins leur faire sentir qu'il y a quelque chose à gagner avec nous. Il n'y a pas jusqu'au dieu, au rapport d'Ovide, qui ne soit charmé lorsqu'on leur donne quelque chose. Sans quelque chose, on languit. On fait une triste figure dans le monde. Sans quelque chose, un père a bien de la peine à pourvoir ses enfants. Un époux a bien de la peine à contenter sa femme. Un maître, ses domestiques. Et un pauvre diable a empêché qu'il ne passe pour ridicule. Tout le monde, enfin, a besoin de quelque chose. Et on ne saurait s'en passer. Qu'est-ce qui fait la plupart des mauvais ménages ? C'est que les maris trouvent toujours quelque chose à redire à leurs femmes. Et les femmes à leurs maris. Qu'est-ce qui cause la mauvaise intelligence d'une voisine avec sa voisine, d'un père avec ses enfants, d'un maître avec ses disciples? C'est qu'ils se trouvent tous quelque chose à redire les uns aux autres. Ce qui prouve incontestablement le mérite de quelque chose, puisqu'on blâme d'ordinaire ceux en qui on trouve quelque chose à redire et qu'on méprise presque toujours ceux à qui il manque quelque chose. Il y a des gens qui, de loin, c'est quelque chose, et de près, ce n'est rien. Il y en a d'autres, au contraire, qui, de loin, ce n'est rien, et de près, c'est quelque chose. Et ceci gagne à être approfondi, puisqu'on découvre tous les jours quelque chose en eux qui les rend de plus en plus estimables. Non seulement quelque chose rend les hommes aimables et rehausse l'éclat de leur vertu, non seulement quelque chose se fait rechercher et désirer, quelque chose encore se fait craindre. Et il est heureux pour la société que quelque chose mette un frein à la malice des hommes et à la fureur des méchants. Que les hommes, en un mot, craignent quelque chose. Sans cela, on ne verrait sur la terre que meurtre, brigandage, désordre et confusion. Et comme dit un auteur moderne, nous serions dans une appréhension continuelle les uns des autres, nous passerions devant les hommes comme devant les lions, et nous ne serions jamais assurés un moment de notre vie, de notre bien, ni de notre honneur. Dans tous les temps, quelque chose a été l'objet du culte religieux des peuples. Il n'y a point de climat si sauvage où l'on adore quelque chose. Un mari qui aime beaucoup sa femme sans en être jaloux, c'est quelque chose. Une constance de 3 mois parmi les amants d'aujourd'hui, c'est quelque chose. Une femme qui a beaucoup de vertus sans être acariâtre, c'est quelque chose. Une jolie femme qui n'est point capricieuse, c'est quelque chose. Une jeune personne qui est enjouée et badine sans être coquette, c'est quelque chose. Deux époux qui ne s'aiment pas beaucoup et qui cependant ne se querellent qu'une fois le mois, c'est quelque chose. Un musicien qui n'est ni quinteux ni ivrogne, c'est quelque chose. Un peintre qui n'est point ratier, c'est quelque chose. Un poète qui n'est ni fou ni fantasque, c'est quelque chose. Un savant qui n'est point pédant, c'est quelque chose. Un gentilhomme qui paye exactement ses dettes, c'est quelque chose. Un marchand qui vend cher, mais qui donne de bonnes marchandises, c'est quelque chose. Si on pouvait dire d'un médecin qu'il se fait payer grassement de ses visites, à la vérité, mais qu'il guérit ses malades, on dirait « c'est quelque chose ». Quand on veut dire d'un financier qu'il fait bon usage de ses richesses, on dit aussitôt « c'est quelque chose ». Quelque chose est un proté qui se varie en une infinité de manières différentes. Il y a quelque chose d'aimable comme ma maîtresse. Sa bouche a 1000 attraits puissants. Elle surprend l'âme et le sens. Rien n'est si doux que son langage. Un cœur qui ressent son pouvoir ne sait ce qui plaît davantage ou de l'entendre ou de la voir. Il y a quelque chose de haïssable, comme mon rival. Quelque chose de délicieux, comme un baiser, cueilli sur les lèvres d'Iris, qui mollement résiste, et par un doux caprice, quelquefois le refuse, afin qu'on le ravisse. Quelque chose de joli comme le bichon de Madame la Marquise D. Quelque chose d'ennuyeux, comme la plupart de nos éloges, quand ce ne serait que celui-ci. Quelque chose de flatteur, comme l'espérance qui répand quelques fleurs parmi les épines qui nous environnent. Quelque chose de rare, deux coquettes qui se veulent du bien et deux poètes qui se louent. Quelque chose de risible, un seigneur qui se promène au cours avec sa femme. Quelque chose de fâcheux, la vue d'un créancier. Quelque chose de sot, comme le petit maître colifiché. Il y a quelque chose d'indéchiffrable, le cœur d'une femme. Quelque chose de plus léger que le liège, l'amitié d'un courtisan. Il y a quelque chose de grand qui plaît, comme les yeux de Madame B, qu'on ne saurait voir sans amour. Quelque chose de petit qui enchante, comme la bouche de la spirituelle Mademoiselle N, qu'on ne saurait voir sans désir. Quelque chose qu'on cherche vainement depuis longtemps en ce pays-ci, un hymen parfait de tout point. Quelque chose qu'on donne aisément, des conseils. Quelque chose que tout le monde aime, les louanges. Quelque chose que tout le monde regrette, le passé. Quelque chose dont peu de gens jouissent, comme ils devraient, le présent. Quelque chose que personne ne sait, l'avenir. Je pourrais, si je voulais, diversifier agréablement quelque chose, en mille diverses façons. Mais il faut passer à ce qui établit principalement le mérite de quelque chose. La vertu est quelque chose qui tient le milieu entre deux vices opposés, comme la véritable bravoure est quelque chose qui tient le milieu entre la témérité et la lâcheté. Un homme qui a trop de bien court risque de se perdre par trop de mollesse et d'orgueil. Un homme qui n'a rien est un malheureux, toujours prêt à se désespérer. Un homme qui a quelque chose est dans cet état tranquille et heureux que désirent les sages. Un homme qui croit tout est un sot qu'on doit mépriser. Un homme qui ne croit rien est un pyrrhonien dangereux qu'il faut éviter. Un homme qui croit quelque chose est un homme de bon sens qu'il faut consulter. Un homme qui sait tout, celui-là est encore à trouver. Un homme qui ne sait rien, chacun sait où il faut le placer. Un homme qui sait quelque chose est un homme qu'on ne saurait trop estimer. Celui qui donne tout est un extravagant à renfermer aux petites maisons. Celui qui ne donne rien est un monstre qu'il faudrait étouffer. Celui qui donne quelque chose est un galant homme que tout le monde s'empresse de rechercher. Celui qui approuve tout est un fade complaisant qui fait mal au cœur. Celui qui n'approuve rien est un vilain bourru qui se fait haïr. Celui qui approuve quelque chose est un homme judicieux qui se fait aimer. Un homme qui dit tout est un indiscret qu'il faut craindre. Un homme qui ne dit rien est un sournois dont il faut se défier. Un homme qui dit quelque chose est un homme qu'on se fait un plaisir de fréquenter. Une femme qui aime tout est une coquette outrée qui n'est ordinairement aimée de personne. Une femme qui n'aime rien, à quoi est-elle bonne sur la terre? Une femme qui aime quelque chose est une femme raisonnable qui fait son métier et qui remplit sa destinée. Je passerai les bornes que je me suis prescrites si j'entreprenais de rapporter tout ce qui peut contribuer à l'éloge de quelque chose. J'ajouterai seulement, pour finir, qu'il n'y a rien de précieux et de désirable ici-bas qui soit au-dessous de quelque chose qui est infiniment plus précieux et plus désirable. L'or, par exemple, les perles et les pierreries passent pour tout ce qu'il y a de plus précieux et de plus rare sur la terre. Quelque chose, cependant, est encore plus précieux que l'or, les perles et les pierreries. la science est extrêmement désirable dans toutes sortes d'états. Quelque chose, cependant, est plus désirable encore que la science. Les honneurs, les dignités, la naissance distinguent considérablement l'homme. Quelque chose, cependant, le distingue encore plus que la naissance, les dignités et les honneurs. Les richesses, la force et la santé sont fort nécessaires à l'homme. Quelque chose pourtant lui importe encore plus que la santé, la force et les richesses. L'esprit et la beauté sont bien aimables, mais quelque chose est plus aimable encore que l'esprit et la beauté. Que vous dirais-je enfin ? Le soleil, la lune et les étoiles nous charment par leur éclat et leur lumière. Mais nous savons tous que quelque chose surpasse en éclat et leur lumière ces astres si brillants que nous ne nous passons point d'admirer. Ou plutôt, nous savons tous que quelque chose est seul infiniment lumineux, seul infiniment aimable, seul infiniment précieux. Auprès de ce quelque chose, seul digne de tous nos désirs et de toutes nos louanges, le reste n'est que chimère et vanité. Fin de l'éloge de quelque chose de Louis Coquelet.